Véroa Afrique, Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 1er novembre 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seboudia. Tout d'abord, les titres. Plus de 2000 personnes arrêtées dans les manifestations réprimées au Tchad, selon l'Organisation mondiale contre la torture. En RDC, des milliers de manifestants en colère hier à Goma contre le Rwanda, accusés de soutenir la rébellion du M23. Au Mali, au moins 13 civils tués par des soldats et des hommes blancs, démentis d'une source militaire malienne. Le Nigeria minimise le risque d'attentat à Abuja, la capitale, après l'alerte des États-Unis. La Guinée équatoriale ferme ses frontières terrestres avant la campagne électorale qui débute le 3 novembre. Nouvelles élections ce mardi en Israël. Benjamin Netanyahou décidé à revenir au pouvoir. Ukraine, bombardement massif russe sur des infrastructures. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Plus de 2000 personnes ont été détenues pendant et après les manifestations violemment réprimées au Tchad qui ont fait plusieurs dizaines de morts à travers le pays le 20 octobre. C'est ce qu'affirme l'Organisation mondiale contre la torture, Abdourahmane Dia.
Selon le conseiller principal en droits humains pour l'Afrique à l'OMCT, environ 1000 personnes ont été arrêtées et placées en détention dans divers lieux de la capitale N'Djamena. Isidore Collins Sengel-Djoga estime qu'environ 1100 autres ont été placés en détention à la prison de Moussoro, à 300 km de N'Djamena, et dans la prison de haute sécurité de Korotoro, en plein désert. D'après l'OMCT, des représentants des autorités judiciaires doivent se rendre cette semaine à Korotoro pour leur notifier les charges. L'ONG demande la libération de toutes les personnes détenues ou au moins qu'elles bénéficient de procès équitables. Elle souhaite aussi que la sécurité des avocats soit garantie pendant la traversée du désert. Les manifestations ont fait une cinquantaine de morts et plus de 300 blessés, selon le Premier ministre Saleh Kebzabo. Les manifestants contestaient la récente extension de la période de transition politique dirigée par Mahamat Idriss Déby Itno. Un couvre-feu a été décrété dans plusieurs villes. Des représentants des deux principales organisations des droits humains du pays, de passage à Genève cette semaine, ont fait part de leur vive inquiétude et réclamé une mobilisation plus forte de la communauté internationale.
Plusieurs milliers de Congolais en colère ont manifesté hier à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, contre le Rwanda accusé par Kinshasa, malgré les démentis de Kigali, de soutenir les rebelles du M23. Ces derniers continuent de gagner du terrain dans l'est de la République démocratique du Congo. En moins d'une semaine, le territoire contrôlé par le M23 a presque doublé, a tuté en fin de journée le KST, baromètre sécuritaire du Kivu. Les rebelles ont continué de progresser vers le nord, tandis que les FARDC, forces armées de la RDC, sont concentrés plus au sud, selon le KST, pour leur barrer la route de Goma, une ville de plus d'un million d'habitants. Selon l'ONU, les combats entre les FARDC et le M23 ont déplacé depuis le 20 octobre quelque 50 000 personnes, dont 12 000 ont trouvé refuge en Ouganda. Au Mali, des élus locaux et un responsable d'une association communautaire ont annoncé hier qu'au moins 13 civils ont été tués dimanche dans le centre du pays par des soldats et des militaires blancs, une information démentie par une source militaire malienne, Michel Joseph.
Dimanche à Guéledjé, dans le cercle de Tanankou, les militaires maliens sont venus en force avec des militaires blancs. Il y a eu des coups de feu et des arrestations. On a compté au moins 13 morts, a déclaré à l'AFP un élu local qui a requis l'anonymat. Selon un autre élu local, il y a parmi les morts une femme, sa fille et sa petite-fille. Pour un habitant de Guéledjé, le village a été attaqué parce que l'armée et les militaires blancs de Wagner considèrent que c'est une localité de djihadistes. Selon un responsable de l'association Tabital Poulakou, une association pour la promotion de la culture des Peuls, ce sont plus de 20 civils qui ont été tués et arrêtés dimanche à Guéledjé. Des membres de cette communauté, a-t-il dit. On fait trop d'amalgames. tous les Peuls ne sont pas des djihadistes. Ceux qui ont été tués sont des civils innocents, a-t-il ajouté. Une source militaire malienne a refuté ces informations, indiquant à l'AFP « Nous rejetons catégoriquement ces accusations ». Les autorités maliennes démentent les accusations occidentales sur la présence de Wagner et parlent de coopération avec l'armée russe au nom d'une relation ancienne d'État à État.
Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a organisé hier une réunion d'urgence avec les chefs des forces de sécurité qui ont réfuté toute menace accrue dans la capitale Abuja. La semaine passée, l'ambassade des États-Unis au Nigeria avait lancé une alerte sur des attaques potentielles dans cette ville. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Le conseiller à la sécurité nationale du Nigeria, Babagana Monguno, a rejeté une augmentation de l'insécurité dans son pays. C'est faux, il est irresponsable pour qui que ce soit de donner un tel signal, a déclaré M. Monguno après la réunion avec le président. Il a encouragé les Nigériens à retourner à leurs activités quotidiennes normales. Depuis cette alerte américaine, suivie par celle du Canada et du Royaume-Uni, la police nigériane a déclaré avoir renforcé la sécurité dans le pays, en particulier dans la capitale. Le président Muhammadu Buhari a appelé au calme, affirmant qu'il n'y a aucune menace d'attaque imminente à Abuja. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest et Boko Haram sont principalement présents dans leur fief du nord-est du Nigeria. Les djihadistes ont récemment revendiqué des attaques à des centaines de kilomètres de leur bastion, notamment près de la capitale. En juillet, l'ISWAP a revendiqué une attaque d'envergure contre la prison de Kuje, près d'Abuja, libérant des centaines de détenus, dont de nombreux commandants djihadistes.
La Guinée équatoriale a fermé ses frontières hier avec le Cameroun et le Gabon pour éviter, dit-elle, l'infiltration de groupes pouvant déstabiliser la campagne présidentielle qui débute le 3 novembre. Le 25 octobre, le vice-président Théodore Nguema Obiang avait ainsi justifié cette mesure sans donner de date officielle de réouverture des frontières, tout en précisant que seuls les aéroports resteraient ouverts.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël tient ce mardi 1er novembre ses 5e législatives en 3 ans et demi pour désigner les 120 membres de la Knesset. Ces élections pourraient consacrer le retour aux affaires de l'ex-premier ministre Benjamin Netanyahou, accusé de corruption dans une série d'affaires. Le point avec Nanit Talani.
Initialement prévues pour le 31 octobre 2025 au plus tard, ces législatives sont organisées de façon anticipée après que la coalition au pouvoir de Yair Lapid, qui avait chassé du pouvoir M. Netanyahou, a perdu sa majorité au Parlement au printemps avec le départ d'élus de droite. À 73 ans, Benjamin Netanyahou, le plus pérenne des chefs de gouvernement de l'histoire d'Israël, tente de rallier une majorité de 61 députés sur les 120 du Parlement à ses alliés des partis ultra-orthodoxes et de l'extrême droite qui a le vent en poupe. M. Netanyahou a principalement axé sa campagne sur la sécurité qui s'est détériorée et l'économie avec l'inflation. Les derniers sondages créditent le bloc de droite de Netanyahou de 60 sièges contre 56 pour le camp du premier ministre sortant, le centriste Yair Lapid. Les partis arabes israéliens, qui en 2020 avaient récolté une moisson record de 15 sièges, se présentent en ordre dispersé sous 3 listes. Divisés, ils sont plus menacés de ne pas atteindre ce seuil et ainsi favoriser la victoire du camp Netanyahou dans un pays qui peine ces dernières années à accoucher de coalitions ou à les maintenir.
Les dirigeants arabes tiennent ce mardi en Algérie leur premier sommet en 3 ans sur fond de divisions persistantes sur les conflits qui agitent la région, notamment la Syrie et la Libye et le rapprochement de certains États avec Israël. La Ligue arabe, qui regroupe 22 pays, s'était réunie pour la dernière fois en tel niveau en mars 2019 à Tunis, avant la pandémie de COVID-19. Ukraine, plus de 80% des habitants de Kiev étaient privés d'eau et des centaines de localités étaient sans électricité après des frappes massives lundi de la Russie contre les infrastructures dans plusieurs régions du pays. Le président d'extrême droite, Bolsonaro, est resté muré dans son silence lundi au lendemain de sa défaite face à Lula, qui a reçu de nombreux appels de dirigeants étrangers le félicitant pour son élection. Alors que le camp de M. Lula craignait que le président sortant refuse de reconnaître sa défaite avec des conséquences potentiellement délétères pour la première économie d'Amérique latine, des partisans de M. Bolsonaro bloquaient des axes routiers partout à travers le pays. La Minute Éco, Mohamedou Humfa.
En Tanzanie, la population a bondi de près de 40% en 10 ans pour atteindre 61,7 millions d'habitants, a indiqué lundi la présidente Samia Suluhu Hassan, soulignant que cette forte croissance démographique constituait un fardeau pour le partage des ressources. « Nous avons besoin des stratégies de développement pour offrir des services aux gens », a-t-elle poursuivi, soulignant que la population du pays devrait atteindre 151,2 millions en 2050. La plupart des pays non pétroliers du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord connaissent un ralentissement graduel, a prévenu lundi le FMI. L'un des problèmes est l'inflation, revue à la hausse à 14,2% cette année dans la région contre 13,8% dans les prévisions d'avril. Les pays les plus pauvres de la région, incluant le Soudan, la Mauritanie, la Somalie et Djibouti, sont les plus menacés avec une croissance de seulement 0,8% prévue en 2022. Les cours des céréales étaient en hausse lundi après que la Russie a annoncé samedi suspendre l'accord sur les exportations de céréales des ports ukrainiens en raison d'une attaque de drones sur ses navires en Crimée. Selon certains experts, il est encore trop tôt pour mesurer toutes les conséquences, d'autant plus que ces tensions ne vont pas inciter les vendeurs à alimenter le marché.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
On connaît les affiches du dernier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans.
Oui, duel en Afrique centrale entre le Gabon et le Cameroun. Le Congo défiera l'Afrique du Sud. Choc en vue entre deux voisins, le Sénégal et le Mali. Toujours en Afrique de l'Ouest, l'affiche Nigeria-Guinée promet. La République démocratique du Congo fait face au Ghana. L'Égypte tenante du titre joue contre la Zambie. Et le Niger fera face au Soudan. La phase finale de cette CAN des moins de 23 ans aura lieu en juin 2023 au Maroc. Les trois premiers de la compétition se qualifieront pour les Jeux Olympiques Paris 2024.
Paul Pogba déclare forfait pour le Mondial.
Le milieu de l'équipe de France blessé a déclaré forfait pour le Mondial 2022 au Qatar. C'est ce qu'a annoncé son avocate et agente Rafaela Pimenta dans un communiqué. C'est un nouveau coup dur pour les Bleus. Déjà privé de N'Golo Kanté, opéré d'un ménisque début septembre, Paul Pogba avait repris l'entraînement collectif avec la Juventus Turin ces derniers jours. Mais un nouveau pépin physique dimanche a retardé sa guérison, rendant impossible une sélection dans la liste annoncée pour le 9 novembre par le sélectionneur Didier Deschamps. À 29 ans, Pogba n'a plus disputé le moindre match officiel depuis le mois d'avril. L'affaire extra-sportive impliquant son aîné Mathias Pogba, mis en examen pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminels, a aussi perturbé la rentrée du champion du monde.
Ici en NBA, les Sixers sanctionnés pour avoir contacté deux recrues avant le marché des transferts.
Les Philadelphia Sixers seront privés des deuxièmes tours de draft en 2023 et 2024. Ils sont ainsi sanctionnés par la NBA pour avoir enfreint le règlement du marché des transferts en contactant deux recrues, PJ Tucker et Daniel House Jr. Avant la date autorisée, les Sixers avaient annoncé les arrivées de ces deux joueurs respectivement en provenance de Miami et de Utah quelques minutes à peine après l'ouverture du marché. Par le passé, les Milwaukee Bucks ont aussi perdu un choix du deuxième tour de draft après avoir tenté prématurément de conclure un échange avec les Sacramento Kings pour récupérer Bogdan Bogdanovic. Une autre enquête est actuellement menée par la NBA à propos de la signature aux New York Knicks du meneur Jalen Brunson en provenance de Dallas. On reste ici à NBA pour terminer avec les résultats des matchs de la nuit dernière.
Et c'est avec vous, Idrissa.
Philadelphia bat Washington 118 à 111, Milwaukee bat Détroit 110 à 108, et les Clippers bat Houston 96 à 93, Toronto massacre Atlanta 139 à 109.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Vincent Kariga, l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, a quitté la République démocratique du Congo ce lundi après avoir été notifié par les autorités congolaises de la mesure de son expulsion. Cette décision fait suite à la prise de plusieurs localités et villes par les rebelles du M23, soutenus par Kigali selon Kinshasa et qui se rapprochent de la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Eddy Issango a joint de l'autre côté du fleuve, au Congo-Brazzaville, l'ambassadeur Kariga.
J'étais notifié à 11h, à 13h05, j'étais à Brazza.
Dans la lettre qui vous a été donnée, qu'est-ce que vous avez reproché, vous, personnellement?
Il n'y a rien de personnel, tout va avec les relations diplomatiques entre les deux pays.
Quelle est la version de fait de Kigali par rapport à ce qui se passe? On sait que le M23 s'est approché de Goma, votre pays est accusé d'être derrière.
Là, je préfère ne pas trop commenter. Il y a beaucoup d'explications au niveau du Conseil de sécurité, il y a les positions du gouvernement postée à des moments différents. Je m'en tiens à cela.
Et le fait que vous ayez été renvoyé de Kinshasa, qu'est-ce que ça signifie exactement? Est-ce que vous pensez revenir? Est-ce que vous allez faire recours? Qu'est-ce qui va se faire?
On part. S'il y a des relations qui se refont, ce sera à d'autres personnes. L'essentiel, c'est les relations pays à pays. Mais moi, personnellement, j'ai des relations très personnelles avec le pays. La RDC, où je suis né, où j'ai grandi, c'est mon pays de naissance. Donc, comme individu, j'ai des liens défectibles avec le pays. Mais comme ambassadeur, en moment de conflit, je dois m'exécuter aux normes et aux exigences du pays hôte.
Il y a le processus de Nairobi qui est en marche et le processus de Luanda. À l'heure actuelle, il y a des tensions à Goma, à la frontière. Qu'est-ce que vous pensez qui peut être fait pour que la tension puisse être baissée?
Ce qui doit être fait, c'est effectivement le prescrit de Nairobi et de Luanda. Toutes les parties prenantes doivent s'y mettre, discuter, trouver des solutions aux différentes revendications et travailler ensemble.
Il y a les appels pour la paix, il y a l'Union africaine, il y a les Nations unies. Mais certains pensent qu'on peut aller à la guerre. Est-ce que vous pensez, vous-même, qu'on peut aussi aller jusque-là?
Je n'ai pas tous les paramètres avec moi et puis il y a plusieurs acteurs impliqués et le gouvernement congolais, le mouvement M23 et c'est ça. Donc c'est une question assez complexe. Je ne sais pas s'il y aura des escalations ou réescalations. Voyons voir. Prenons le temps.
Vincent Kariga, l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, qui vient de quitter la RDC, d'où il a été expulsé.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
En République centrafricaine, la Cour pénale spéciale a rendu son premier jugement hier, condamnant à des peines de prison trois accusés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Issa Saleh Adoum, Mahamat Tahir et Ousmane Yaouba ont été respectivement condamnés à la prison à perpétuité et à 20 ans d'emprisonnement. Des sentences accueillies avec satisfaction par les associations de victimes et organisations des droits de l'homme. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipela était présent lors du prononcé du verdict.
Au regard des crimes dont les accusés sont déclarés coupables, condamne Issa Saleh Adoum, alias Bozizé, à la peine d'emprisonnement à perpétuité. Mahamat Tahir, à la peine d'emprisonnement pour une durée de 20 années. Yaouba Ousmane, à la peine d'emprisonnement pour une durée de 20 années.
C'est sur cette décision que la première cour hybride de la République centrafricaine a rendu son jugement dans le premier dossier qu'elle a commencé à traiter en avril dernier. Les trois principaux accusés, tous des membres de la rébellion du 3R, sont reconnus coupables de crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour avoir massacré en mai 2019 près de 40 civils dans les villages Lemouna et Koundili dans le nord-ouest de la République centrafricaine. Le gouvernement salue une décision historique. Arnaud Djoubaï Abazen, ministre de la Justice.
C'est un rendez-vous historique pour la République centrafricaine et pour les victimes. Et c'est un signal fort pour tous ceux qui pensent qu'ils ne seront pas rattrapés par la justice. La justice vient de se prononcer. Les trois accusés qui sont poursuivis devant la cour ont été condamnés. L'un a été condamné à perpétuité et les deux autres ont été condamnés à des peines d'emprisonnement à temps de 20 ans respectifs. Et nous pensons pour notre part sur une bonne justice.
Dans la capitale, les réactions sont plutôt satisfaisantes.
On devait tous les fermer pour tout bon.
On donne 50 ans, 40 ans, c'est encore mieux.
C'est une bonne condamnation. La justice a fait son travail parce qu'ils ont arrêté la vie des peuples centrafricains.
Je suis partiellement d'accord. Moi, j'aurais souhaité que les deux autres qui ont écopé de la peine de 20 ans subissent la même peine que l'autre qui a subi la peine de perpétuité.
La justice a fait son travail, mais il fallait qu'ils repartent pour faire l'enquête dans les villages où les choses là se sont déroulées afin qu'ils puissent avoir un accord avec les familles des victimes.
Condamnation, oui, mais la réparation est tout aussi importante. Joseph Bindoumi est président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
La Cour pénale spéciale s'est prononcée. Après la décision, la Cour pénale spéciale a bien indiqué clairement qu'il va y avoir d'ici là une autre audience pour se prononcer sur les intérêts des victimes. Et c'est cette partie-là qui nous intéresse beaucoup parce que pour qu'il y ait une véritable justice dans un pays, il faudrait que les crimes qui ont été commis fassent l'objet d'une réparation.
Le 4 novembre prochain est retenu pour le débat sur les intérêts des victimes. Cette condamnation est la première depuis la création de la Cour pénale spéciale qui a célébré son 4e anniversaire le 22 octobre. Plusieurs autres dossiers sont en instruction à la Cour alors que son mandat de 5 ans finit l'année prochaine. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
La Guinée équatoriale effectue depuis le 20 octobre de vastes opérations de contrôle et d'expulsion de ressortissants étrangers en situation irrégulière sur son territoire. De nombreux Camerounais ont ainsi quitté précipitamment la Guinée équatoriale, même si certains ont bénéficié d'une aide au retour mise en place par le consulat du Cameroun à Bata. Pour une analyse, Mohamed Houmfa, adjoint d'Elmas Safak, docteur en relations internationales, spécialiste de la Guinée équatoriale et chercheur principal au Kafou Policy Institute, un think tank basé à Yaoundé, au Cameroun.
La première réaction est une réaction d'amertume, dans le sens où les migrants n'ont pas été traités de la bonne manière. On a vu des menaces, des gens ont été battus, ainsi de suite. Il y a eu des détentions arbitraires, des arrestations qui ne respectaient pas le droit international. Donc ça, c'est la première réaction. Mais au fond, la Guinée équatoriale est dans son droit d'expulser des gens qui sont en situation irrégulière sur son territoire.
Justement, de nombreux Camerounais se demandent pourquoi il y a des expulsions alors que les deux pays font partie d'un même espace communautaire qui a adopter le principe de libre circulation. Que leur répondez-vous?
Les Camerounais confondent le principe de libre circulation au principe de libre établissement. La libre circulation permet aux citoyens de la CEMAC de se déplacer au sein de la communauté, mais pendant une période maximale de 90 jours. Au-delà des 90 jours, vous devez vous conformer aux règles d'établissement sur le territoire du pays d'accueil. Ce n'est pas malheureusement le cas pour la majorité des Camerounais qui s'y trouvent. Beaucoup y vont sans papier et pensent que comme il y a le principe de libre circulation, ils ne peuvent plus rentrer, ils peuvent s'établir, commencer à travailler et y vivre éternellement, ce qui n'est pas conforme au droit communautaire.
Est-ce que les procédures pour permettre aux étrangers de s'installer en Guinée équatoriale sont accessibles?
Les conditions sont très difficiles parce que l'État demande beaucoup de documents pour pouvoir avoir le droit de séjour. Mais les autorités camerounaises, parce que beaucoup disent que les autorités diplomatiques camerounaises ne travaillent pas là-bas, les autorités diplomatiques camerounaises font un travail remarquable et ce sont ces autorités-là travaillent en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères de Guinée équatoriale pour pouvoir inscrire un certain nombre de Camerounais. 250 dossiers ont été envoyés au ministère des Affaires étrangères, comme l'a signalé l'ambassadeur dans son communiqué, pour pouvoir régulariser la situation de certains Camerounais. L'ambassade du Cameroun en Guinée-Bissau a même demandé une diligence, qu'on accorde un état de grâce de 3 mois à ceux qui viennent de faire leur passeport, de pouvoir déposer les dossiers et régulariser leur situation. C'est possible, même comme c'est très difficile.
Quelles sont les autres mesures durables qui peuvent être prises pour qu'on évite cette situation qui pourrait peut-être un jour aboutir à une crise diplomatique entre les deux pays?
La crise diplomatique, elle a déjà eu lieu sur les mêmes affaires en 2004. Le niveau de tension était monté au point où le Cameroun a rappelé son ambassadeur à Malabo. La mesure durable, c'est la première chose, c'est d'abord l'éducation des Camerounais, parce que beaucoup s'y retrouvent parce qu'ils pensent que comme il y a libre circulation, ils peuvent aller s'installer comme ils veulent. On doit beaucoup communiquer sur le droit communautaire en expliquant que la libre circulation permet de voyager dans ces pays et pour rester au moins pas plus de 90 jours. Ils doivent être au courant et savoir que passer ce délai, ils doivent se conformer ou bien ils rentrent directement chez eux. Donc il y a cette éducation qui doit être faite par rapport à cette loi communautaire-là.
Delmas Tsafak, chercheur principal au Nkafu Policy Institute, un think tank basé à Yaoundé, au Cameroun. Les Américains se rendent aux urnes le 8 novembre et auront probablement à choisir entre les candidats des partis démocrates et républicains. Certains bulletins de vote incluront toutefois des candidats défendant les couleurs de ce que l'on appelle des tiers partis. Ces partis ont traditionnellement eu peu de chance, mais un nouveau parti espère secouer le système américain, comme le rapporte d'Elizabeth dans le New Jersey, le correspondant de VOA, Steve Herman. Le récit est de Michel Joseph.
Tous les présidents américains, depuis la moitié du 19e siècle, sont issus du parti républicain ou du parti démocrate. Et il n'y a pas eu de véritable candidat d'un parti tiers au Congrès depuis plus de 50 ans. La plupart des petits partis se concentrent sur une seule question ou philosophie. Et voulant rester fidèles à leur cause, ils ne parviennent pas à attirer suffisamment de voix pour faire élire leur candidat. C'est l'avis de Micah Sefry, écrivain et militant pro-démocratie, qui a écrit un livre sur les tiers partis.
Ils se heurtent également à un système qui est vraiment biaisé, on pourrait dire truqué, contre la capacité des petits partis à faire beaucoup de progrès. Nous n'avons pas de représentation proportionnelle aux États-Unis, et donc, même si vous obtenez 5% des voix, vous n'obtenez pas 5% des sièges.
Le troisième parti le plus durable de l'Amérique est le parti de la Prohibition, qui a eu un candidat présidentiel à chaque élection depuis 1872 dans sa quête pour interdire l'alcool comme boisson. Micah Sefry.
Environ 2 millions de personnes ont voté pour des candidats de partis mineurs pour la Chambre des représentants des États-Unis en 2020. 2 millions sur combien? 120 millions. Ce n'est pas un nombre considérable. Dans les courses très serrées, vous savez, quelques votes allant aux libertariens ou aux verts ou aux partis de la prohibition ou autres peuvent définitivement faire basculer ces courses quand elles sont vraiment, vraiment serrées.
Le Forward Party fait son entrée sur la scène politique américaine cette année. Parmi ses fondateurs, l'homme d'affaires Andrew Yang, qui s'est présenté sans succès en tant que démocrate à la primaire présidentielle il y a 2 ans. Puis l'année dernière à la mairie de New York. Il est rejoint par l'ancienne gouverneure du New Jersey, Christine Todd Whitman, qui était une républicaine devenue une critique virulente de l'ancien président Donald Trump. Christine Todd Whitman, Forward Party.
Il faut changer le système et c'est pour cela que nous soutenons le vote par classement et les primaires ouvertes. Cela signifierait que les candidats des deux partis devraient être en concurrence et parler à tout le monde, pas seulement à leur base.
Se présentant comme une alternative centriste qui soutiendra certains démocrates et républicains ou présentera ses propres candidats dans des courses non contestées, le Forward Party plaide en faveur d'un système de vote par classement, également connu sous le nom de vote par distribution. Dans ce système, les votes des candidats les moins performants des primaires sont redistribués aux candidats les plus forts sur la base des choix secondaires déclarés par les électeurs. Il reste à déterminer si l'électorat répondra à un nouveau parti modéré dans une Amérique plus polarisée qu'à aucun autre moment depuis l'époque de la guerre civile, lorsque les républicains et les démocrates ont commencé leur longue domination de la politique américaine.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seguya, à la mise en onde de Michel Joseph. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.